La Cité nationale de l'histoire de l'immigration est née il y a 3 ans environ. Nous avons le plaisir d'accueillir pour en parler Luc Gruson, qui est directeur général donc, de cette cité. Bonjour Monsieur Gruson.
Bonjour.
Donc voilà, au départ, le concept, il consistait en quoi exactement ?
L'idée qui était née d'ailleurs une quinzaine d'années avant, c'était de reconnaître la place des immigrés en France en instituant un musée national qui serait consacré à l'histoire de l'immigration en France sur le modèle du musée de l'immigration qui existe à New York aux États-Unis.
Il y a un cahier des charges particulier ?
Alors en fait, le cahier des charges de le projet scientifique et culturel, comme on dit, du musée a été fait à la suite d'une mission de préfiguration qui a été conduite par Jacques Toubon et qui a associé à la fois des associations d'immigrés, des scientifiques et des experts.
Donc ça a mis un certain temps à se construire, à se formaliser. Par rapport au projet d'origine, comment s'oriente ou se réoriente éventuellement la cité ? Quels sont les problèmes qu'elle aurait éventuellement rencontrés et quels obstacles elle a franchis ?
Je crois que, enfin, y a une première question qui n'est pas encore totalement réglée, c'est comment on rend légitime la place des immigrés dans l'histoire de France. Alors l'idée, c'est effectivement de faire une institution patrimoniale, c'est-à-dire un musée, pour que cette légitimation fonctionne. Et une des questions qu'on s'est posées au départ, c'est comment on fait un musée sur l'histoire d'immigration ? Est-ce qu'on doit mettre des valises dans des vitrines ? Est-ce qu'on doit apprendre l'histoire aux visiteurs ? Est-ce qu'on doit recueillir des témoignages de migrants vivants ? Donc on a choisi de faire tout un peu ensemble, parce que justement, parler d'immigration, c'est parler à la fois d'histoires personnelles qui sont à chaque fois différentes, et en même temps, c'est parler de l'histoire commune, puisque c'est un peu ça le projet. Donc cette espèce de cocktail qui n'est jamais parfaitement abouti, on l'essaye de l'améliorer, parce que le principe d'un musée, il faut le rappeler, c'est de constituer des collections. En plus, nous, on est un musée national, donc on constitue des collections pour le compte de l'État. Et donc, une des questions qu'on se pose tous les jours, c'est comment on va enrichir ces collections. On achète évidemment des œuvres d'art sur le marché de l'art, parce qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui travaillent sur ces sujets, mais on a aussi des collectes d'archives, des collectes d'objets, des gens qui viennent raconter leur histoire, etc. Donc c'est un travail vraiment permanent d'enrichissement du propos. Alors ensuite, les problèmes qu'on a rencontrés depuis l'ouverture, principalement, je pense qu'on avait sous-estimé la difficulté qu'il y a à parler de l'immigration d'un point de vue culturel dans un contexte médiatico-politique où l'immigration est sans cesse prise en otage dans des débats et sans cesse instrumentalisée par les enjeux politiques. Je crois qu'il y a une espèce de décalage temporel entre la politique qui résonne à court terme et les problématiques dont nous on traite, qui sont des problématiques de long terme, parce que l'intégration, ça se fait pas en quelques mois, ça prend plusieurs générations. Et changer les regards des Français sur leur propre pays, ça va prendre du temps aussi. Donc nous, on essaye de se mettre à l'abri des polémiques parce qu'on a un travail long à faire.
Donc quand vous dites un travail long, il est à la fois, j'allais dire, conserver un patrimoine, peut-être retrouver aussi des choses qui auraient un peu disparu ou qui seraient un peu chez les personnes, encore un peu cachées, voire secrètes.
Voilà, alors ça c'est effectivement un élément très important, c'est que bon, il y a des sujets sur lesquels on fait des musées où c'est pas trop difficile, parce que d'abord on collectionne des objets. Faire collection sur l'histoire, c'est pas forcément des objets, ça peut être de l'immatériel. Ensuite, l'immigration, dans l'histoire de France, elle a été occultée. C'est-à-dire que depuis 2 siècles, il y a des étrangers qui viennent en France. On n'a jamais glorifié cette histoire-là, parce que c'est un peu, je ne vais pas dire la partie honteuse, mais enfin, les gens qui ont migré, en général, étaient des gens pauvres qui se sont insérés dans la société, et leurs descendants n'ont pas toujours envie, en tout cas au début, parce que en fait, après, ça revient, de reparler de ces périodes sombres. Et bon, on voit que beaucoup de Français qui sont issus à la deuxième ou la troisième génération d'immigration n'ont pas envie forcément de raconter les moments difficiles de leurs parents. Par exemple, à Paris, on sait que beaucoup d'immigrés dans les années 60 vivaient dans des bidonvilles. Bon, les gens n'ont pas forcément envie de se rappeler de ça. La deuxième raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que l'immigration en France a commencé après la Révolution française, donc c'est assez long, c'est 2 siècles. En même temps, il y a très peu de traces historiques de cette présence étrangère. Et la présence étrangère qui est familière à tous les Français, c'est la présence étrangère récente. Donc l'immigration récente, c'est principalement l'immigration de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire la période qui va de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusque les années 70, où on a eu tellement besoin de main-d'œuvre pour développer l'économie qu'on a fait venir à tour de bras des immigrés des autres pays européens, mais aussi des anciennes colonies. Cette immigration-là, elle est à la fois toute récente, et en même temps, les gens qui ont été les acteurs de cette immigration, les ouvriers qui ont travaillé dans les usines, les mineurs dans le Nord, c'est des gens qui aujourd'hui sont à la retraite, et bon, ces gens vont bientôt mourir tout simplement. Donc on a un travail de collecte de la mémoire orale qui est très important à faire, parce que bientôt ça sera trop tard. Moi je suis allé il y a un mois à peu près à Bordeaux, parce que on a fait un gros travail avec des associations locales de collecte justement de mémoire orale. Et bon, à Bordeaux, il y a à la fois des républicains espagnols. Bon, ils sont tous très très vieux maintenant puisqu'ils ont fui l'Espagne au moment du franquisme. Il y a des anciens combattants marocains qui se sont battus pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme dans le film Indigène. Il y a des Portugais qui ont fui le salazarisme. Tous ces gens qui sont arrivés entre 1960 et 1970, aujourd'hui, ce sont des gens âgés. Donc si on ne s'occupe pas maintenant de collecter cette histoire, on la perdra. Donc je crois que c'est un des défis de la cité, c'est aussi de garder cette histoire.
Luc Gozon, l'immigration prend des formes différentes en termes de population. Là, actuellement, on a deux grandes catégories de populations migrantes qui sont traitées au niveau des médias, notamment. On va parler des Roms, par exemple, et puis aussi des gens qui viennent, par exemple, des pays comme la Tunisie, qui sont en pleine effervescence et donc qui suscitent des changements de cadre de vie pour ces personnes qui ont envie de découvrir ou profiter de l'occasion pour s'implanter et redévelopper une activité, une vie dans un autre endroit. Mmh. La deuxième chance, on va dire, peut-être.
Oui, alors d'abord, comme toujours, l'histoire est pleine d'enseignements. C'est-à-dire quand on regarde l'histoire de l'immigration en France depuis 2 siècles, on se rend compte que globalement, les derniers arrivés ont toujours du mal à se faire une place au soleil, parce que, y compris d'ailleurs de la part des générations de migrants précédentes, ceux qui arrivent les derniers, ils sont les moins bien considérés, ils ont les boulots que personne ne veut faire. Par exemple, il y a une chercheuse du CNRS qui a fait une étude sur les métiers qui sont effectués par les immigrés. On se rend compte que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas des catégories de population ou même des aptitudes ethniques qui font que certains immigrés font tel métier plutôt que d'autres, parce qu'en réalité ce sont des vagues d'immigration qui se succèdent dans les mêmes métiers. Donc elle a pris plusieurs exemples, par exemple dans l'industrie du cuir à Paris, on voit que avant la Révolution française, c'était les bannis de Paris qui étaient dans les métiers liés au cuir à cause de l'insalubrité de ces métiers-là. Ensuite, il y a eu les réfugiés juifs d'Europe centrale qui se sont installés à Belleville, puis les Arméniens, puis les populations de Turquie et du Maghreb, maintenant les Chinois. Et tous ces gens font successivement les mêmes métiers dans les mêmes ateliers, et simplement c'est des métiers qui ne sont pas glorieux. Dans le bâtiment, c'est encore plus frappant, puisque dans le bâtiment, il y a eu successivement les Italiens, les Portugais. Aujourd'hui, on voit le métro qui est en train de se construire, ou les tramways à Paris. Les chefs d'équipe sont portugais, les ouvriers sont africains. Donc il y a eu un remplacement, il y a eu une espèce d'ascension sociale pour les plus anciens, et les plus nouveaux sont au marteau-piqueur et à la pioche. C'est vraiment une constante dans l'immigration, c'est le fait que ceux qui arrivent dérangent ceux qui sont déjà là. Il y a toujours une espèce d'illégitimité du migrant. Alors je rappelais aussi ce matin dans la conférence que, par exemple, les Portugais, qui ont été pendant très longtemps la plus importante communauté étrangère en France, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 2/3 des Portugais qui sont rentrés en France clandestinement, c'est-à-dire sans papier. Ça représente 1 million de personnes, donc c'est vraiment énormément plus que les flux migratoires d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a entre 100 et 200 000 migrants chaque année en France. Donc il y a eu beaucoup plus de Portugais dans les années 60. Le problème, c'est que ces Portugais trouvaient du travail et donc la régularisation était sinon immédiate, en tout cas possible à la fin. Donc sur les Roms et sur les Tunisiens, je pense que alors, les Roms, c'est un cas très particulier puisque les migrations des populations tziganes ou Roms, comme on les appelle, il y a débat là-dessus, ont commencé au XVe siècle. Donc ça veut dire qu'au début de la Renaissance, il y avait déjà ces populations en France. D'ailleurs, certaines sont installées depuis très très longtemps en France et, contrairement à ce qu'on pense, sont aussi sédentarisées depuis très longtemps. La question des Roms aujourd'hui, c'est l'élargissement de l'Union européenne qui permet aux populations tziganes des pays d'Europe centrale qui sont rentrés dans l'Union européenne de circuler librement et donc, en principe, de venir librement s'installer en France. Moi, j'ai eu la chance de bien connaître la Roumanie, parce que j'y ai enseigné pendant à peu près 10 ans. Donc je sais à quel point les questions de racisme et les discriminations sont très très violentes là-bas. Et donc, à juste raison, les Tziganes roumains, mais pas seulement les Roumains, hein, les Hongrois, les Bulgares, les Tchèques viennent en France parce que tout simplement, ils sont très mal traités ici, mais moins mal qu'ils ne le sont dans leur pays d'origine. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de jeu, là encore, politico-médiatique, où on annonce à grand bruit le renvoi de ces populations dans leur pays, et ces populations reviennent ensuite, puisqu'elles ont le droit légalement de venir en France. Alors sur la Tunisie, c'est encore différent, à mon avis. C'est que la Tunisie, alors d'abord, il faut se rappeler qu'elle a des liens très anciens avec la France, donc il y a des Tunisiens qui parlent le français, qui aiment la culture française, et qui ont le désir de venir s'installer en France. Et c'est la raison pour laquelle... parce qu'on pourrait dire pourquoi les Tunisiens ne s'installent pas en Italie, où le soleil brille aussi, mais simplement les liens historiques de la Tunisie et de la France sont très importants. Donc ce désir de migration, il est lié aussi à la conquête des libertés. Et je crois qu'on oublie souvent, c'est quelque chose qu'on oublie toujours de dire quand on parle d'immigration, c'est que d'abord, il faut être sacrément courageux pour quitter son pays, sa famille, etc., pour aller dans un autre pays, et que les gens ne le font pas. C'est pas un libre choix, c'est simplement que souvent, on quitte son pays parce que les conditions de vie économique ou politique sont insupportables, et que la migration, c'est la promesse d'une liberté. Je crois que ça, c'est vraiment très important de s'en rappeler. C'est-à-dire, tous les migrants qui sont allés aux États-Unis, c'est parce qu'ils pensaient que là-bas, ils auraient plus de liberté. Et les gens qui viennent en France, c'est aussi pour cette raison, parce que la migration, elle est souvent liée à l'exode rural. Et quitter la campagne pour aller à la ville, souvent, c'est la conquête de droits qu'on n'avait pas, notamment pour les femmes. Et c'est la conquête de liberté qu'on n'avait pas avant, parce que quand on est en ville, chacun le sait, on fait un peu ce qu'on veut, alors que dans le village, on est sous le contrôle de la communauté. Donc je crois que le désir de migration, c'est aussi lié à un désir d'émancipation. Et là, c'est un peu comme les Roms, c'est qu'il ne faut pas surestimer la menace d'une immigration massive des Tunisiens, parce que, chiffre en main, les Tunisiens qui sont à l'entrée des frontières européennes et françaises ne sont pas si nombreux que ça, et en tout cas pas aussi nombreux que certains médias ou partis extrémistes voudraient nous le faire croire. Je crois qu'il faut tout à fait relativiser. De la même façon, on avait dit il y a 10 ans que les Polonais allaient déferler sur la France et prendre le boulot des Français. Bon, on n'a pas vu. Hein, c'est vrai qu'il y a des migrants d'Europe centrale qui sont aujourd'hui en France, mais ils ne sont pas très nombreux non plus.
Donc l'histoire de l'immigration s'écrit au quotidien, on va dire. Pour amuser, il y a aussi l'idée de pouvoir capter à un moment donné cette évolution et ces moments forts, ces temps forts. Est-ce que vous produisez, par exemple, ou aidez à produire ou coproduisez des sujets d'enquête ou des films ou des sons, pourquoi pas, qui permettront après de garder cette trace et de la mettre à disposition du public ou des universitaires?
Oui, alors effectivement, en dehors du fait qu'on fait des expositions temporaires, puisqu'on est un musée, on fait tout un travail de collecte de la mémoire. Donc ça passe par plusieurs médias, et notamment justement par la collecte de témoignages oraux, donc sonores ou audiovisuels. Et pour faire ce travail, on travaille simultanément avec des chercheurs, parce que je pense que c'est important d'avoir une approche scientifique, mais aussi avec des gens qui sont plutôt... on va dire du côté des artistes, c'est-à-dire, vous savez, à une époque, c'était la mode de faire des cassettes avec les récits de vie en sociologie, mais dans un musée, on ne peut pas faire grand-chose avec des choses qui seraient simplement des récits. Donc, il y a aussi le problème de comment on donne à voir et à entendre ces témoignages. Donc, on fait un travail aussi avec les artistes pour cette raison-là.
Donc, Luc Gruson, comme vous l'expliquiez, ce musée est à la fois sociologique, historique, mais c'est aussi un musée qui donne à voir des œuvres d'art.
Oui, alors ça, c'est un pari assez fort qu'on a fait au départ. On s'est dit, mais d'abord, on veut faire un musée, parce qu'un musée, c'est ce qui rend les choses légitimes dans la culture commune. On aurait pu faire un centre culturel d'un statut moins élevé. Effectivement, le choix qu'on a fait, c'est se dire, on s'est dit, bon, c'est pas parce qu'on fait un musée de l'immigration que ça va être un musée de deuxième catégorie qui aurait des collections moins valorisées ou moins nobles dans la hiérarchie culturelle que les grands musées nationaux qui sont aussi à Paris. Donc on a décidé que parallèlement aux collectes de témoignages, d'objets, etc., on allait... constituer une collection d'art, tout simplement parce que d'abord on est un musée national, donc on acquiert des œuvres pour le compte de l'État, ça rentre dans les collections nationales, c'est une acquisition définitive pour l'État, hein. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que dans les jeunes artistes qui travaillent aujourd'hui en France, et quand on va dans les écoles d'art, on se rend compte que beaucoup de jeunes artistes sont issus de l'immigration. Et je pense que devenir artiste, c'est aussi une façon d'exprimer par l'art, justement, son propre vécu ou son propre questionnement. Donc beaucoup d'artistes ont une histoire personnelle qui est liée à la migration. Bon, je ne vais pas parler de la scène artistique parisienne qui, depuis très longtemps, est le refuge de tous les artistes du monde. Mais aujourd'hui, il y a un autre phénomène, c'est effectivement les artistes qui sont issus de l'immigration, c'est-à-dire... dont les parents ont été des immigrés et qui ont fait le choix de devenir artistes. Et puis, il y a beaucoup d'artistes qui traitent des thèmes dont on parle dans notre musée parce que aujourd'hui, les grands sujets qui intéressent l'humanité, parce que c'est un phénomène mondial, c'est la question justement de l'exil, du déracinement, de l'identité, du métissage. Donc il y a beaucoup d'artistes contemporains qui s'interrogent sur ces sujets-là parce que ce sont des questionnements planétaires. Et bon, par exemple, là, on est en train de préparer justement une grande exposition, ça sera la prochaine, sur le regard des artistes contemporains sur les migrations et l'exil. On travaille pour faire cette exposition avec des jeunes artistes qui travaillent en France, comme on dit, mais on a aussi... un commissaire d'expo qui est un Français d'origine chinoise qui est professeur invité à l'université de San Francisco. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans le monde de l'art, on se questionne énormément sur tous ces sujets-là parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser vu de France, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des problèmes d'immigration, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des problèmes d'identité. Je crois que dans tous les pays développés, cette question-là est posée, et c'est d'ailleurs un des challenges du monde d'aujourd'hui, c'est d'essayer de repenser les questions du vivre ensemble, de l'identité, et de la cohésion sociale dans un monde qui est ouvert, même si on essaye de verrouiller les frontières, parce que le monde est ouvert, c'est comme ça.
Le monde est ouvert, mais les frontières sont parfois un peu difficiles à franchir et parfois le retour se fait pas forcément dans de bonnes conditions. On a aussi toute une vague d'artistes qui viennent de l'étranger, qui sont en France pour se nourrir, on va dire, intellectuellement, enrichir leur art, leur technique et trouver de nouvelles voies. Je pense à des artistes qui viennent de Chine, par exemple, et qui ont étudié là-bas d'abord et qui poursuivent leurs études dans des grandes écoles d'art en France et qui souhaiteraient éventuellement rester par la suite. Est-ce qu'on peut imaginer pour ces artistes une forme de statut international qui les protège des risques de devoir quitter les pays où ils sont à tout moment? Est-ce qu'on pourrait imaginer une charte européenne qui permette à des artistes reconnus ou dans un parcours reconnu par des professionnels de bénéficier de droits spécifiques, par exemple?
Oui, alors au niveau européen, je ne sais pas s'il y a des projets de statut de cette nature, mais alors il y a peu de gens savent par contre qu'en France, il existe un titre de séjour particulier pour les artistes, parce que la France qui a toujours attiré tous les artistes du monde, depuis assez longtemps, s'est préoccupée du fait que les artistes étrangers ne subissent pas les mêmes difficultés pour venir en France que les immigrés de travail ou les demandeurs d'asile. Et donc depuis très longtemps... Il y a en France un statut particulier de carte de séjour pour les artistes. Moi d'ailleurs, je pense que ça n'a jamais été fait, mais je pense que ça serait intéressant que des chercheurs fassent une analyse statistique des titres de séjour qui ont été délivrés dans le cadre de cette règle particulière, parce que je pense qu'il y a énormément d'artistes étrangers en France qui ont bénéficié de ce statut et que peut-être d'ailleurs ça a contribué à la renommée culturelle de la France à l'étranger. Mmh. Et bon, quand on produit des spectacles, par exemple, on sait très bien que même faire venir quelques jours des troupes de spectacles d'un pays étranger, c'est très compliqué parce que, outre le fait qu'il y a les problèmes de visa, etc., les milieux artistiques sont quand même relativement protectionnistes et de la même façon que les Américains empêchent les artistes non-américains de se produire aux États-Unis, en France, il y a aussi des règles qui sont relativement protectionnistes. Donc, parce que la culture, c'est aussi un enjeu économique, il ne faut pas l'oublier.
Vous aviez parlé tout à l'heure des collections, on va dire permanentes, d'œuvres acquises. Est-ce qu'il existe également des expositions temporaires qui sont faites justement dans le but aussi de faire venir un public qui ne viendrait pas forcément dans votre musée, mais qui pourrait avoir cette possibilité à un moment donné d'y pénétrer et pourquoi pas de s'intéresser à ce que vous proposez d'une manière générale?
Oui, alors dans notre projet scientifique et culturel, en effet, on avait... À la différence d'autres grands musées nationaux, nous, on avait pensé que l'immigration, c'était un sujet un peu trop complexe pour en faire le tour dans une grande exposition qui dirait tout sur l'histoire de l'immigration. Donc dès le départ, on avait pensé qu'il fallait faire plutôt une petite exposition permanente et beaucoup d'expositions temporaires, parce que l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une exposition temporaire, on change d'angle de vue. Et quand on essaye d'appréhender quelque chose qui est compliqué, le fait de changer d'angle de vue, ça permet effectivement de croiser les regards et d'essayer, peut-être le but de la cité, c'est de faire comprendre aux visiteurs, qu'ils soient français ou d'origine étrangère, que l'immigration, c'était un peu plus compliqué que ce qu'ils avaient pensé au départ. Donc depuis l'ouverture de la cité, on a fait une bonne douzaine d'expositions temporaires en changeant vraiment énormément de sujets d'une fois sur l'autre. En ce moment, on traite du thème de la Pologne. Alors par exemple, l'immigration polonaise, ça paraît être un sujet un peu bateau, parce qu'on se dit, bon, les immigrés polonais, c'est ceux qui ont fait leur trou sans histoire. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que d'abord, peu de gens savent, y compris dans le Nord, que l'immigration polonaise, elle a commencé 100 ans avant les mineurs polonais, parce que les premiers Polonais qui ont émigré en France, c'était en 1840. pour fuir le tsarisme. Donc c'était plutôt une immigration politique et d'élite. Et les mineurs polonais que tout le monde connaît, c'est après la Première Guerre mondiale, parce que tout simplement, ils manquaient de bras. Certains de ces mineurs, peu de gens le savent aussi, ont été renvoyés en Pologne au moment de la crise de 1929, quand on trouvait qu'il y avait trop d'ouvriers étrangers en France. Donc c'est pas du tout une immigration de tout repos, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis en Pologne, ça rejoint la question des Roms, il y a aussi des minorités, et des minorités persécutées ont aussi migré en France. Donc en France, il y a des Tziganes d'origine polonaise, et il y a aussi beaucoup de Juifs d'origine polonaise, parce que tous ces gens ont fui les persécutions et se sont réfugiés en France. Donc ce qu'on a voulu montrer dans notre exposition, c'est que l'immigration polonaise, c'est 2 siècles, et c'est une beaucoup plus grande complexité de processus migratoire que ce qu'on pourrait penser au départ. Parallèlement, alors pour montrer que justement on essaye de croiser les thématiques et les publics, toujours sur la Pologne mais dans un registre très différent, il y a en France un des plus grands graphistes et affichistes français s'appelle Roman Cislewicz. Donc comme son nom l'indique, c'était un graphiste d'origine polonaise et d'ailleurs réfugié polonais, qui avait été formé dans les grandes écoles de graphistes de l'Europe de l'Est et qui en France a fait une carrière qui est très très célèbre pour les amateurs d'art graphique. Et notamment, il a fait toutes les affiches du centre Georges Pompidou dans les premières années. Donc c'est des affiches qui sont encore aujourd'hui des icônes des arts graphiques. Alors les deux expositions marchent très bien. La première, donc l'immigration polonaise, on voit tout un tas de gens qui arrivent en autocar, notamment du nord de la France, parce que les descendants des Polonais ont une vraie fierté de leurs origines polonaises, qu'ils ont cultivées, un peu comme les Arméniens. C'est une immigration qui a 100 ans, mais il y a toujours la même force de la culture d'origine. Donc c'est une exposition qui est celle qui marche le mieux de toutes celles qu'on ait faites depuis qu'on est ouvert, parce qu'il y a une sorte de bouche à oreille qui fait qu'il y a énormément de monde. Et Cislewicz, donc, qui est présenté en même temps, attire tout un public d'étudiants en art et d'amateurs d'art graphique, qui est un public qui ne serait pas venu a priori dans un musée de l'immigration. Simplement, pour eux, Cislewicz, c'est une référence. Et donc évidemment, tout le projet de la cité, c'est aussi de faire se croiser ces publics, parce que nous, on n'a jamais voulu faire un musée qui serait « je m'adresse aux immigrés pour leur expliquer comment l'intégration en France est possible, facile, et comment tout ça est merveilleux ». Non, je pense que on essaye de rendre les gens peut-être pas plus intelligents, mais que les gens se posent des questions. Donc le musée s'adresse à tout le monde, aussi bien aux Français de souche qui pensent qu'ils ne sont pas concernés par l'immigration, que aux migrants et leurs descendants qui peuvent trouver chez nous des sources d'enrichissement. Et une de nos particularités, c'est que dans le public, on a énormément de scolaires. Donc moi, personnellement, je pense que changer les regards, ça commence avec les enfants. Donc les groupes scolaires, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et puis on a beaucoup de groupes qu'on pourrait appeler du champ social, c'est-à-dire des groupes qui viennent de centres sociaux, il y a beaucoup de groupes d'alphabétisation, etc. Donc là, ce sont vraiment des migrants de la première génération. Et la plupart de ces gens ne sont jamais entrés de leur vie dans un établissement culturel. Donc notre cité, c'est aussi le premier contact de ces gens-là avec le monde de la culture. Et pour nous, c'est très important que justement, ils ne soient pas déçus, c'est-à-dire qu'à la fois, ils retrouvent leur propre histoire, mais qu'éventuellement, ils voient pour la première fois des œuvres d'art, parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'entrer avant dans un musée. Il faut dire que la culture officielle, elle est un peu intimidante, donc il faut la rendre accessible. Je crois que c'est un vrai travail.
Alors le Gruson, on l'a compris, votre ambition dépasse les limites franco-françaises, et la dimension internationale de ce musée a certainement été pensée en termes de communication, notamment avec votre site internet, pour ceux qui ne peuvent pas forcément venir en France et ceux qui sont intéressés par ces problématiques qui se trouvent à l'étranger. Est-ce que le site amène des éléments, éventuellement aussi un concept un peu temporaire pour présenter, mettre en lumière certains événements, par exemple?
Oui, alors on essaye de faire en sorte que toutes les ressources de la cité, c'est-à-dire autant les collections, toute la documentation qui est dans la médiathèque et tout ce qu'on collecte soit accessible sur Internet. Donc on a un site qui est extrêmement riche en ressources numériques grâce au progrès et à l'augmentation de débit et de puissance des ordinateurs. Avant, on avait beaucoup de ressources textes, donc maintenant, on a beaucoup de ressources images et même vidéos. Par exemple, on fait des conférences tous les mois scientifiques, un peu comme l'Université de Lille 1 à la Porte Dorée. Bon, on podcast toutes ces conférences pour que les gens puissent les écouter. Pour vous donner une petite idée, bon, les conférences, c'est un peu comme ici à Lille. Selon les intervenants plus ou moins connus, on a entre 50 et 200 personnes qui assistent aux conférences. Sur Internet, c'est 10 000 téléchargements. Ça n'a absolument rien à voir, parce que Internet est un mass-média. Donc je pense que Internet, par rapport à un musée, c'est... D'abord, ça ne remplace pas la visite, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser en amont, c'est-à-dire pour préparer sa visite, en aval après la visite. Puis il y a beaucoup de gens, notamment les étudiants, qui utilisent Internet pour se documenter sans forcément que ça déclenche une visite. Alors on n'a pas vraiment étudié notre impact à l'étranger via Internet, mais on sait qu'on a beaucoup d'étudiants, par exemple, de l'Union européenne qui viennent visiter maintenant notre musée. Donc ça prouve que ça a aussi du sens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays étrangers qui envisagent de faire peut-être pas une cité nationale sur l'immigration, qui est un modèle très français, mais enfin un lieu culturel consacré à la question des migrations. Donc les gens viennent voir ce qui s'est fait en France. Donc il y a un vrai, je pense, intérêt international pour ce projet. Et bon, dans le monde, il n'y a pas tellement de musées de même nature. Il y a celui de New York qui est un peu le modèle que nous avons copié. Mais il y a un musée aussi en Australie qui est un peu de même nature, qui est plutôt un mémorial aussi qu'un musée. Les Allemands sont en train de faire un musée de l'émigration, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui sont partis aux États-Unis. Les Espagnols ont fait un musée d'émigration à Barcelone, mais qui traite aussi d'émigration intérieure, ce qui est d'ailleurs peut-être typiquement catalan comme vision du monde. Partout dans le monde, cette question de la relation entre la culture commune, l'identité, l'émigration, elle se pose. Et nous, honnêtement, alors à Paris, Paris est la ville la plus touristique du monde, et les grands musées comme le Louvre ont 2/3 de touristes dans la fréquentation. Nous, on a très très peu de touristes, on a surtout du public français, mais on voit qu'on commence à avoir un peu de public touristique, ce qui prouve qu'il y a des gens qui viennent à Paris pour voir autre chose que les grands musées que tout le monde connaît. Et bon, pour nous, c'est aussi intéressant, et on aimerait... Alors là, je fais de la prospective pour les années à venir. Nous, on pense que maintenant que la cité est installée, on doit aussi réfléchir à la relation que la migration a liée entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Et ce qui est intéressant, ça serait aussi de faire des projets en coproduction avec les pays de migration, parce que, évidemment, on ne peut pas comprendre l'immigration en France sans comprendre d'où les gens sont partis. C'est ce que disait le sociologue Sayad. Et pour nous, c'est une question fondamentale. Donc, par exemple, en ce moment, on travaille avec le Portugal, parce qu'au Portugal, il y a un musée de l'émigration aussi qui se trouve à Faf, dans le nord du Portugal. Donc on aimerait bien peut-être faire un jour une exposition qui traite des migrations portugaises, mais vues des deux côtés, c'est-à-dire du pays de départ et aussi du pays d'arrivée, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de Portugais qui sont repartis au Portugal ensuite. Certains font un peu la navette, c'est bien connu. Donc tout ça, c'est des questions qui nous intéressent.
Mais Luc Grouzon, je vous remercie. On peut peut-être rappeler le site internet de la cité?
Oui, tout à fait. Alors, le site internet de la cité, c'est www.histoire-immigration.fr. Sur les moteurs de recherche, on trouve très facilement, il n'y a pas de problème. Et ça permet aussi d'avoir un accès très facile à toute la documentation. Donc c'est pour dire que les technologies permettent de plus en plus de rendre les musées ouverts à tous les publics.
Espérons qu'elles permettront aussi de rapprocher davantage les hommes.
Tout à fait, c'est notre but.
C'était Yves Grouzon, directeur de la Cité nationale de l'immigration, une émission de René Lavergne.